Rock and Roll Suicide, un podcast entièrement réalisé par moi-même, Pascal Després. Aujourd'hui, le Velvet Underground, épisode 6.
The surface is there, the unmistakable smell of female. The surface shiny and silken. The body yielding yet wanton. But a word of caution, handle with care and don't drop your guard. This rapacious new breed prowls both alone and in packs, operating at any level.
New York, studio Mayfair Sound sur la 7ème avenue. Lumière blanche qui va me rendre dingue. Lumière blanche, tu sais pas que ça va m'aveugler. Chaleur blanche, elle m'électrise jusqu'aux orteils. Lumière blanche, Seigneur, aie pitié. Lumière blanche, pitié, mon Dieu. Country Gentleman de Lou, branché sur le trémolo des Amplivox, avec un micro en plus que lui a donné Sterling, crache tout ce qu'elle peut au travers des pédales de distorsion et de fuzz. White Light, White Heat est le premier morceau du deuxième album enregistré en septembre 67. L'objectif, en ne sélectionnant que les titres les plus durs de leur répertoire, est de tenter de faire une sorte de live en studio.
Si l'on pouvait trouver une certaine beauté dans le premier album, John Cale parle ici de férocité.
Les amplis sont poussés aux limites, le son du groupe est plus lourd, de quoi faire pâlir n'importe quel punk. Le titre pose tout de suite l'ambiance. Encore un plongeon dans les amphétamines, tout va trop vite, les images se télescopent. Avant de rentrer en studio, le groupe a franchi un cap en se séparant de Nico, puis d'Andy Warhol. Nico, elle, joue au Dôme, dans des conditions difficiles, mais ce sera l'occasion de la rencontre avec Jackson Browne, qui va devenir son compagnon dans la réalisation de Chelsea Girl, son premier album, et dans la vie aussi. Elle est accompagnée par plusieurs membres du Velvet à la guitare. L'album sera produit par Tom Wilson et enregistré à New York en mai 67. Les arrangements de Larry Fallon, nappe de cordes et flûte, ajoutés à la trame d'origine guitare et voix de Brown, ne plaisent pas à Nico, tout particulièrement la flûte. L'album est dans son genre malgré tout assez touchant, par la mélancolie qui s'en dégage, avec des textes de Reed, Cale, Brown et Tim Harding. Une poésie désenchantée se concrétise avec talent. « J'aime les chansons tristes, tragiques », disait-elle.
About the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to I stop my rambling I don't do too much gambling these days
Pendant qu'une bataille s'engage avec Verve pour la date de sortie des albums de Zappa, Hot Rats et celui du Velvet, que Nico s'attire les pires critiques possibles lors de ses concerts et que les seuls singles contenant All Tomorrow's Parties, I'll Be Your Mirror, sortis en juillet, puis Sunday Morning et Femme Fatale, sortis en décembre 66, ne sont même pas mis à la disposition du public et des professionnels, l'album n'est toujours pas dans les bacs. Lors d'une série de concerts à Détroit, le Velvet est à l'affiche avec les Yardbirds. Ceux-ci furent emballés et reprirent même un de leurs titres, I'm Waiting for My Man. Ils viennent tout juste de sortir Happenings 10 Years Ago, qui plaît beaucoup à Warhol. Il faut dire que certains passages sont assez proches de ce que fait le Velvet. Anglais qui a réuni Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page, les Yardbirds jouaient un rock bluesy avec quelques nuages psychédéliques. Très apprécié en Grande-Bretagne, la fin du groupe va permettre à Jimmy Page de rassembler autour de lui les musiciens qui formeront Led Zeppelin. Le hard rock devenait un genre dans lequel vont s'engouffrer pas mal de monde sans jamais approcher la violence et le lyrisme du Velvet. Sortira deux productions personnelles, Loop en décembre 66 et Untitled for Piano dans la plus pure veine brutiste qu'il explore. Sortie de l'album en mars 67. Finalement, ça y est, et non sans mal. L'avant-garde ne paye pas, les ventes ne décollèrent pas, 30 000 en 5 ans. Mais depuis, on dépasse le million. Le disque est aujourd'hui reconnu par les différents médias comme faisant partie des albums les plus importants de l'histoire du rock. Le rock avec ce disque devient brusquement adulte et peu seront prêts à s'engouffrer sur cette voie. Comme si la rencontre de Reed, Cale et Warhol ne pouvait se reproduire. Cette époque est particulièrement fertile, tout art confondu. Ce sont Hendrix ou les Doors qui vendent le mieux, les acheteurs du Velvet sont ceux qui les ont vus en concert, et le pays ne suffit pas. Il faut un deuxième album.
Ayant décidé de ne plus jouer à New York où les radios ne diffusent aucun de leurs titres, le Velvet sans Nico et Warhol commence ses sessions au Boston Tea Party, tenu par un certain Steve Sesnick. Le public semble lassé et eux aussi de le pays. La séparation d'avec Nico se confirme fin mai 67. On savait tous qu'elle allait partir. Ce n'était pas censé durer, et ça n'a pas duré, conclut Lou Reed. Son départ va faire pencher le groupe vers son côté enragé et bruyant, qui ne sera pas toujours bien reçu. Quand elle était sur scène, personne ne pouvait la quitter des yeux. Nico était toujours le meilleur sujet pour la caméra. Au même moment, les Doors embrassent l'Amérique avec « Light My Fire ».
Nico au festival de Monterey au bras de Brian Jones. Il monta sur scène pour présenter Jimi Hendrix, alors inconnu aux States. En fait, il revenait d'Angleterre où il avait époustouflé tout le monde lors de ses concerts, laissant un goût amer chez pas mal de guitaristes qui se sentaient tout petits face à un tel phénomène. C'est après le festival qu'elle se rend au Castle, où Danny Field, l'agent des Doors, organise une rencontre avec Jim Morrison. Nimbé par l'aura des deux personnages, une relation brève mais intense les unira. We'll be right back. C'est en juillet que Warhol, Morrissey et Lou Reed abordent la question du management et du contrat qui les lie. Warhol avait ouvert le débat. Ça vous intéresse toujours de jouer pour des expos et des vernissages? De fait, le Velvet ne fait pas grand-chose depuis un moment. Selon Morrissey, Lou avait décidé de dissoudre le groupe et ne plus travailler avec Warhol. Cela rendra Andy fou furieux, traitant Lou Reed de sale rat. C'est ce qu'il avait trouvé de pire. C'est lui qui encourage Reed à s'engager plus intensément dans l'écriture et laissera toujours une entière liberté au groupe, tout en leur permettant de réaliser un album. Cependant, en les intégrant à son univers multimédia, il les a mis à part, comme l'une de ses œuvres. Le Velvet voulait se démarquer de cette image. Approché par Brian Epstein, le producteur des Beatles, qui n'eut pas le temps d'aller plus loin puisqu'il meurt en juillet 67 d'overdose, c'est à Steve Selznick, qui semblait avoir de l'ambition pour eux, qu'ils donneront alors, en reformant le groupe, les clés du camion. Le deuxième morceau, The Gift, est l'adaptation de cette nouvelle que Lou avait envoyée à Shelley Albin, sa petite amie lorsqu'il était adolescent. Histoire de Waldo, amoureux de Marsha, qui vit avec une fille. C'est ce garçon qui décide de se poster lui-même et qui finit dans un bain de sang. Marsha, n'arrivant pas à ouvrir le colis, y plonge un couteau électrique qui fend la tête de Waldo. Pour la petite histoire, Reed a essayé d'imiter le bruit que cela ferait en lançant une pastèque par terre pour en enregistrer le son. Mais si l'on perçoit timidement dans le morceau un léger bruit, cela ne donne rien. Le récit monocorde de Cale fonctionne très bien en une seule prise. Le mixage ayant complètement séparé la voix de la musique, on peut écouter l'un ou l'autre. L'ingénieur du son, Gary Kellgren, travaille avec Tom Wilson. Il s'occupe de Zappa et sera bientôt aux côtés d'Hendrix pour Electric Ladyland. Un des ingénieurs du son face au projet du Velvet dit « On ne me fera pas entendre ça, j'appuie sur record et je vais au bistrot, vous venez me chercher quand c'est fini. » Le son produit par le Velvet créait une sorte de mur sonore dans lequel il était difficile de séparer les instruments les uns des autres. Le groupe a toujours tendance à jouer si fort en concert que ça en devenait insupportable pour beaucoup et ne rendait pas toujours au mieux vu le matériel de l'époque.
Why don't you get a scissor, said Sheila. Marcia ran into the kitchen, but all she could find was a little sewing scissor. Then she remembered that her father kept a collection of tools in the basement. She ran downstairs, and when she came back up, she had a large sheet metal cutter in her hand. This is the best I could find. She was very out of breath. Here, you do it. I think I'm going to die. She sank into a large, fluffy couch and exhaled noisily. Sheila tried to make a slit between the masking tape and the end of the cardboard flap, but the blade was too big and there wasn't enough room. God damn this thing, she said, feeling very exasperated. Then smiling, I got an idea. What, said Marcia. Just watch, said Sheila, touching a finger to her head. Inside the package, Waldo was so transfixed with excitement that he could barely breathe. His skin felt prickly from the heat, and he could feel his heart beating in his throat. It would be soon. Sheila stood quite upright and walked around to the other side of the package. Then she sank down to her knees, grasped the cutter by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning, and right through the center of Waldo Jeffers' head, which split slightly and caused little rhythmic arcs of red to pulsate gently in the morning sun.
Pour Lady Godiva's Operation, c'est encore Cale qui se charge du récit chanté pour commenter une opération, un changement de sexe ou une lobotomie, accompagné de bruitages et d'exclamations étranges de Reed. Sa fascination pour les trans lui vient sans doute de la factory, où il en avait vu grandeur nature. Not today, propping grace within me. Lady Godiva appears to see if anyone's there and hasn't a care. Doctor is coming, the nurse thinks sweetly, turning on the machines that neatly pump air. The body lies bare, shaved and hairless, what once was screaming now lies silent and almost sleeping. The brain must have gone away. Ce n'est pas un mystère, Lou Reed était bisexuel. Il vécut dans les années 70 avec Rachel, femme transgenre à qui il dédia Coney Island Baby. Ces deux chansons sont étranges et inclassables, ressemblant plus à des courts-métrages qu'à du rock.
The moment of great, great decision. The doctor is making his first decision.
One goes here.
One goes there.
Beneath the tears leaking, says someone who's sloppy.
Patient, it seems, is not so well sleeping.
Screams and echo on the wall. Don't panic, someone give him pentafall instantly. Doctor removes his blade, cagely so from the brain.
By my count of ten, my head won't move.
Début 67. Le Velvet réalise quelques enregistrements chez John Cale, Ludlow Street, des essais au son assez inexploitables, mais dans lesquels se trouvent plusieurs maquettes de ce qui fera le deuxième album. On y entend « Here She Comes Now », alors que la version définitive donne la mesure du travail accompli. C'est le cas des autres démos.
Thank you. too far that I ever gone now.
En face B, c'est un nouveau déluge sonore entamé par I Heard Her Call My Name. Morrison reprochera à Reed d'avoir trop poussé sa guitare au mix, mais bon, il n'était pas très chaud pour les solos, alors Reed s'en est chargé. La Gretsch crache des Larsen et des mugissements raccord avec l'excitation du chant. Encore une qui ne s'approchera pas des charts. Il ne fallait pas suggérer que Lou ne savait que 4 notes. J'ai fait 15 ans de piano, un de ces jours je vais sortir mes diplômes et dire « Est-ce que ça suffit à me légitimer ?» J'écris toujours la même chanson, mais ma merde vaut le diamant de tous les autres. Ce déchaînement annonce le titre suivant, Sister Ray. Lou Reed poussera encore les limites avec Metal Machine Music, sorti en 75, un double album de 4x15 minutes de feedback ininterrompu. Un disque au sommet du rock brutiste qui sert aujourd'hui dans des expos d'art contemporain. Deuxième album prend une tournure assez barrée. On voit mal les titres s'approcher du succès. Le jusqu'au boutisme et l'étrangeté font écho aux univers de Blue Hooks et Hubert Selby Jr. Plus de Nico, plus de ballades. Quant à l'absence de Warhol, elle ne se fait pas particulièrement sentir.
you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never.
On va fermer la porte, mais je l'ouvrirai la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne nuit.
'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.